présentation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques.
Salut à tous, c'est Atomic Mac, une émission de stuff nucléaire en Ardèche. Nous sommes en direct sur Radio Méga et en rediffusion sur Radio Diwa et des clics radio à ton nom. Voilà, on est content de vous retrouver. Alors, il s'est passé qu'un mois depuis la dernière émission, mais l'actualité a été assez dense sur ce mois de novembre. Paris est attaqué par des fanatiques fous furieux, bain de sang. La jeunesse et la liberté sont prises pour cible. L'état d'urgence est déclaré. On en profite pour museler des contestataires écologistes. La liberté est une seconde fois touchée. Et pour finir, les Français qui ont bien voulu aller voter ce week-end succombent à la facilité en choisissant l'extrême. Bye bye la fraternité. Alors nous ne parlerons pas en détail de tous ces sujets dans notre émission, même si l'on reviendra sur l'état d'urgence avec Annie tout à l'heure. Mais nous avons choisi, nous, de ne pas céder à la facilité avec notre programmation musicale. Nous ponctuerons notre émission avec des chansons qui parlent de Paris et donc de notre pays tel qu'on l'aime, et avec des chansons d'artistes franco-arabes qui portent des messages de paix, de tolérance et de partage. Revenons à nos moutons aujourd'hui. Nous continuons notre série d'émissions sur la COP21. Donc nous recevrons tout à l'heure Michel Rivasi, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, qui sera en direct au téléphone avec nous depuis son bureau de Bruxelles. Nous parlerons avec elle de la COP21 et de l'implication des institutions européennes, et un peu nucléaire, bien sûr. Mais avant cela, place à nos billettistes, comme à notre habitude, en commençant par Georges et les nouvelles de Fukushima. Georges, c'est à toi.
Oui, bonjour, chers auditeurs et auditrices. C'est encore toujours sur Fukushima. Et là, c'est d'après le docteur Cécile Azunama Brice du CNRS Asie du Nord, et du professeur Tsuda, qui est épidémiologue à l'université d'Okoyama. Selon Cécile Azunama, l'objectif est de comprendre la manière dont l'application de notions scientifiques trop vagues, ainsi que leur utilisation globalisée, trouble notre perception de la menace, en l'occurrence nucléaire, pour aboutir à la mise en péril de la population qu'ils étaient censés protéger, augmentant par là même leur vulnérabilité. L'explosion de la centrale de TEPCO à Fukushima a engendré une contamination irrégulière au sein et au-delà du département de Fukushima. Le taux de radioactivité dans l'air comme au sol excède par endroits 10 à 20 fois le taux de contamination internationalement admis, soit 1 millisievert par an. Dès avril 2011, les autorités ont relevé les normes de protection à 20 millisieverts dans la région la plus polluée afin de limiter la surface de la zone d'évacuation. Il est aujourd'hui question de la relever à 100 millisieverts par an. Cette remise en cause de la norme a été observée dans divers domaines. Par exemple, dans l'alimentation, le taux maximum d'acceptabilité est passé d'une limite de 100 becquerels par kilo à 500 becquerels pour redescendre à 300. Ainsi, la présentation des discours met à jour une manipulation de tout ordre dans laquelle on distingue grossièrement les partisans de la sécurité et les autres. Alors, les partisans dits de la sécurité prônent l'institution de normes de sécurité en fonction desquelles la protection de la population est organisée. Normes et seuils sont fixés et permettent la mise en œuvre d'une politique qui tend à assigner la population à demeure, voire à l'inciter au retour à la vie dans des zones pourtant contaminées au vu des normes internationales. Ainsi, l'individu se voit contraint d'assumer financièrement et physiquement la responsabilité de sa protection sanitaire, même s'il n'a aucune prise. Afin de remédier à cela, au moins en apparence, une véritable stratégie de communication est adoptée, soutenue par un budget spécifique pour l'année 2014 de plus de 2 millions d'euros. Cette politique d'empowerment vise à éduquer aux risques sanitaires pour mieux rassurer, notamment via l'organisation d'ateliers sur la radioactivité et le cancer destinés aux élèves des classes primaires, et aussi sur l'efficacité de la décontamination, qui n'a toujours pas été prouvée, et par la vente des produits frais en provenance de la zone contaminée. Voir aussi le programme ETHOS à visée économique qui a déjà été évoqué dans un autre billet. Le problème d'une telle société est donc qu'elle nie ce dont elle produit l'existence, en l'occurrence le risque nucléaire ou toute autre pollution. Pour conclure, le journaliste Ugaya Hiromichi, dans le journal Business Media Makoto du 22 janvier 2015, relate, juste après les événements, l'explosion de la centrale, « Je me souviens que lorsque l'on approchait le dosimètre à la frontière de la zone d'évacuation, on mesurait 0,2 à 0,3 millisieverts par heure. Néanmoins, si l'on franchissait la délimitation et que l'on pénétrait dans la zone, on faisait l'objet d'une arrestation par les forces de l'ordre. Maintenant, on est en moyenne à 3,8 microsieverts par heure. Le chiffre le plus élevé est de 17,3 et l'on peut y circuler librement. Les réglementations de l'État ainsi que ses contradictions sont tellement stupides sur ce point qu'elles ne peuvent que prêter à rire. Maintenant, le professeur Tsuda, qui, après étude, relève 112 cas de cancer de la thyroïde avérés sur 3 ans, plus 25 reconnus. Cette évolution, donc l'augmentation considérable, était prévisible par l'OMS, qui a sous-évalué les doses par an reçues à 100 à 200 millisieverts par an, au lieu de 300 à 1000, et à 1-10 millisieverts par an à Tokyo et Osaka, au lieu de 10-100 millisieverts par an. D'autre part, le professeur Uno a mis en évidence une contamination du lait maternel de 1119 microsieverts par an pour une contamination de la mère de 432 microsieverts par an. Aux USA, la CDC a produit un rapport sur le temps d'incubation d'un cancer thyroïdien de 2 ans et demi pour un adulte et 1 an pour un enfant. Il faut savoir que le temps clinique est d'un an, donc le temps réel est largement inférieur. Enfin, sur toutes les zones, sauf une, au nord-est, il est mis en évidence, par la méthode du professeur Tsuda, une augmentation de 20 à 50 fois le taux naturel de cancer de la thyroïde sur 3 ans. Voilà, après ces bonnes nouvelles, je passe le relais.
Merci Georges. On continue avec le billet d'Annie.
Bonjour. Que d'événements depuis notre dernière émission Atomic Mac du 2 novembre. La COP21 se mettait en place et nous avions alors annoncé les manifestations citoyennes pour sauver le climat. Et puis, les terribles événements du 13 novembre nous bouleversent tous. Nous sommes bien sûr unanimes pour que cet engrenage s'arrête, que notre pays garde sa liberté, égalité, fraternité. Mais nous ne partageons pas les moyens d'y arriver. Si l'état d'urgence pouvait se justifier les premiers jours, nous sommes inquiets quant à sa prolongation. Un slogan affiche même « l'état d'urgence pour faire oublier des tas d'urgences ». Dans ce tas d'urgences s'en mêle notamment la lutte pour sauver le climat, l'accueil des migrants, la poursuite du nucléaire, les élections régionales. Mais état d'urgence oblige, le citoyen ne doit pas manifester dans les rues de façon revendicative. Et oui, il paraît que pour défendre notre liberté, on doit commencer par la réduire. Difficile à entendre. Ainsi, les manifestations citoyennes liées à la COP21 sont interdites. Naïvement, j'ai cru au début que c'était pour les protéger d'éventuels attentats. Mais pourquoi alors maintenir les matchs de foot, les marchés de toutes sortes, les meetings électoraux? Ils ne sont pas menacés par les djihadistes, eux? Sous couvert de lutte contre le terrorisme, la prolongation de cet état d'urgence permet tout simplement de tenter d'intimider les citoyens, lanceurs d'alerte et écologistes, et de les traiter comme des ennemis d'État, perquisition, assignation à résidence. Ainsi, le samedi 28 novembre, Stop Nucléaire 2607 appelait avec d'autres organisations à rejoindre la manifestation citoyenne COP21 à Lyon. Cette manifestation à Lyon a été interdite. Nous nous sommes retrouvés, quelques-uns, sur le parvis de la gare de Valence avec notre banderole Stop Nucléaire, de façon très pacifique. Résultat, l'un d'entre nous est convoqué au commissariat de Valence pour, je cite, « organisation d'une manifestation interdite sur la voie publique ». Les services de police ont-ils du temps à perdre à cela? Nous demandons l'arrêt du nucléaire pour de nombreuses raisons de sécurité. Mais l'une d'entre elles s'est davantage concrétisée ces derniers jours. L'attaque terroriste d'un centre nucléaire. Surtout quand on se souvient comme il est facile d'entrer sur le site de Tricastin, Cruas ou Fessenheim avec comme seule arme une combinaison Greenpeace. Des manifestations citoyennes pour la COP21 ont eu lieu à travers le monde entier. Les médias français nous ont montré les images de ces belles manifestations pacifiques, mais... Bien sûr, nous avons tous vu que la manifestation à Paris n'a pas eu le même angle de vision. Violence sur des manifestations assis pacifiquement. Et rien sur les semeurs de violence que nous retrouvons, hélas, dans toute manifestation. Pourquoi salir ainsi la parole citoyenne en France? Poursuivre l'état d'urgence, pourquoi? Les résultats des élections régionales devraient tirer la sonnette d'alarme. Un état d'urgence peut être encore plus dangereux pour notre liberté, égalité, fraternité. Au fait, si les antinucléaires sont si dérangeants, peut-être faudrait-il alors remettre en cause aussi l'ADEME, cet établissement public pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Et oui, l'ADEME a osé prétendre qu'à l'horizon 2050, le scénario 100% renouvelable ne serait pas plus cher que le scénario nucléaire. Qu'on se le dise, diffusons ce rapport de l'ADEME, montre-le, ce sera un nouvel argument pour conforter les revendications de Stop Nucléaire 2607. Merci.
Merci Annie pour ce très joli billet et très à propos billet. On se retrouve juste après une pause musicale.
لقيت مع زهري قال لي قطولي وتمرمت كاين لي بكي على زهره كاين لي حيبكي قبره كاين لي شاب في صاره كرهنا من الحياة كاين لي بكي على زهره كاين لي حيبكي قبره كاين لي شاب في صاره تلاقى الحق مع الباطل ماشك في الخطوة الباطل خلاص لقى الحل باش يحكم غدوة بين ركعيان قالوا حفيت من المشياء وزادلو باريلي نعملو كيسرج الحصان كاين لي يبكي على زهرو كاين لي حيبكي في قبرو كاين لي شاب صارو تلفونا لقات صاروا كرهنا مهد حياة كاين لي يبكي على زهره كاين لي حيبكي في قبره كاين لي شاب صاروا تلفونا لوقات ياك الحق ما شك في قواله وطلع فوق ظهره كامل الناس اصبح حاله وابداو يهضروا كاين على زهره كاين لي حيبكي قبره كاين لي شاب صغره كرهنا مهاد الحياة كاين لي يبكي على زهره كاين لي حيبكي قبره كاين لي شاب صغره تلفونا له
Écoutez toujours Atomic Mac sur Radio Méga et en rediffusion sur Radio Diwa et Déclic Radio à Tournon. Donc nous devrions avoir en ligne au téléphone d'ici quelques secondes Michel Rivasi. Est-ce qu'on est en ligne avec Michel Rivasi ? Allô ? Allô, vous nous entendez Michel ?
Oui, très bien.
Oui, bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps depuis votre bureau de Bruxelles. Donc comme je disais en introduction de l'émission, à Atomic Mac, on a choisi de faire une série d'émissions sur la COP21 et donc d'aborder avec vous l'angle européen. Donc je vais attaquer avec ma première question. L'Europe, comme les États-Unis ou la Russie, sont en grande partie responsables de l'augmentation des gaz à effet de serre depuis le début de l'ère industrielle. Cela nous impose une responsabilité particulière et des efforts considérables pour limiter l'augmentation de la température. Et du coup, comment ce sujet est-il traité au Parlement européen ?
Bah, ce sujet est traité au Parlement européen mais déjà depuis les années 2008, lorsque on avait voté le plan climat-énergie, où l'Europe avait imposé au niveau de tous les États membres ce qu'on appelle les 3 fois 20, c'est-à-dire qu'il fallait diminuer de 20% les gaz à effet de serre d'ici 2020, augmenter de 20% l'efficacité énergétique, donc tout ce qui touche la rénovation de l'habitat et puis tous les appareils, si vous voulez, qui consomment beaucoup d'énergie, et puis d'augmenter de 20% les énergies renouvelables. Ça, c'était le paquet climat-énergie de 2008. Et puis, pour la COP21, l'Europe s'est mise d'accord, il y a eu un vote au niveau du Parlement européen, pour dire qu'il faudrait réduire les gaz à effet de serre de 40% en 2030, augmenter de 27% les énergies renouvelables et augmenter de 27% l'efficacité énergétique. Voilà, ça c'est, si vous voulez, le package que l'Europe doit défendre au niveau de la COP21.
D'accord. Et comment ça s'est traduit concrètement ? Est-ce qu'il y a eu... donc ça, c'était des objectifs. Est-ce qu'il y a eu un cadre législatif qui a été fixé là-dessus avec... avec notamment des financements, avec des propositions sur la fiscalité ou alors des cadres normatifs particuliers?
Ben, écoutez, ça après, ça a été une résolution qui a été votée au Parlement européen. Et après, chaque État doit s'engager. Alors par rapport à ce que je vous avais dit en 2008, c'était un accord contraignant, c'était un banding. C'est-à-dire que tout le monde devait, si vous voulez, opérer cette diminution, cette augmentation de 20%. Vous voyez, souvent c'était les énergies renouvelables. Ou pas. Alors que là, chaque pays doit le faire, mais c'est pas lié, c'est-à-dire que certains peuvent très bien augmenter de 27% les énergies renouvelables, mais pas forcément augmenter de 27% l'efficacité énergétique. Bon. Après, c'est chaque pays qui doit justement instaurer soit une fiscalité environnementale, vous voyez, c'était voilà, des objectifs, et après, chaque pays doit les mettre en œuvre. Alors maintenant, nous, ce qu'on attend de la COP21, c'est que ça soit un accord contraignant, vous voyez, pour contenir l'augmentation de température, parce que l'objectif, c'est que ça n'augmente pas de plus de 2 degrés. Mmh. Et même les ONG parlent de 1,5 degré, donc après... il faut voir ce que va dire la Chine, ce que va imposer l'Inde, etc. Parce que ça, c'est ce qui est bien, c'est que l'Europe, elle regroupe 28 États, et c'est vrai que historiquement, elle est responsable de l'augmentation des gaz à effet de serre, mais ça pourrait être un accord contraignant à partir du moment où toutes les parties vont le signer. Alors la ratification, c'est plus délicat, puisque vous savez qu'aux États-Unis, le Congrès ne voudra jamais ratifier un tel accord. Mm-hmm. Donc il va falloir trouver des formules pour qu'il y ait un engagement des États. En même temps, ce qu'on veut aussi au niveau de la COP21, c'est que il y ait une revoyure. Alors ça a été accepté par la Chine quand François Hollande est allé voir le président de la Chine, pour que tous les 5 ans, on se mette d'accord sur une méthodologie commune, et que si, vous voyez, au niveau de l'eau, il y a trop d'augmentation de gaz à effet de serre, on puisse réaugmenter les objectifs de chaque État suivant leur développement économique. Donc voilà, ça c'est j'espère que au niveau de la COP21, on arrivera au moins à avoir un peu cet accord contraignant et qu'on aura des clauses communes à la fois d'évaluation et puis il faudrait aussi des sanctions parce que si les États veulent pas aller dans ce sens-là, eh bien on aura un réchauffement climatique qui dépassera les 2 degrés et là ça sera irréversible.
Il faut pouvoir avoir des outils, effectivement, pour cela. Et du coup, pour revenir sur la question européenne, est-ce que au niveau de la COP21, l'Union européenne est représentée et parle d'une seule voix, ou est-ce que finalement chaque État défend son bout de gras, en quelque sorte ?
Ben, écoutez, normalement, cette résolution doit représenter les 28 États. Au niveau de
moi, mais au niveau des négociations,
au niveau du protocole de Kyoto, l'Europe avait été très leader. Mm-hmm. D'après les échos, on l'entend, elle est pas très présente. Vous voyez, elle fait pas entendre sa voix d'une façon unitaire, parce que c'est vrai que entre la France et l'Angleterre qui vont défendre leur nucléaire et la Pologne qui va défendre son charbon, nous on dit, écoutez, on vous a donné un mandat, ce mandat c'est 40%, 27 et 27, mm-hmm. À vous de le faire respecter et à vous de jouer la sauvegarde de l'humanité et non pas des intérêts égoïstes et nationaux. Mm-hmm. Bon, mais maintenant, après, je suis pas dans les négos la nuit pour voir un peu les ministres ce qu'ils vont proposer. Mais en tout cas, la négociation de l'Europe, elle est celle-là.
Mm-hmm. D'accord. Et du coup, c'est vrai que vous avez évoqué un petit peu les différents cas. C'est vrai qu'on a l'impression qu'au niveau européen, il y a des bons élèves et des mauvais élèves.
C'est-à-dire qu'après, si vous voulez, le gros souci qu'on a, c'est que à la fois les parlementaires veulent sauver l'humanité pour pas qu'il y ait d'augmentation au-delà des 2 degrés, mais ça dépasse l'Europe, hein, parce que vous voyez bien la position des États-Unis où Barack Obama est venu témoigner son soutien, mais il sait pertinemment qu'il ne pourra pas le ratifier. Vous avez la Chine qui dit « Mais pourquoi moi, on va m'empêcher de me développer ?» alors que vous l'avez fait, et vous l'avez fait avec des gaz à effet de serre. Maintenant, les Chinois, ils sont un peu bloqués, ils sont pris dans leur propre piège, puisque vous voyez que les gens, ils peuvent même plus respirer dans leur grande ville, que ce soit Shanghai ou que ce soit Pékin, et que la diminution des gaz à effet de serre va aussi avec la diminution de la pollution de l'air. Et que là, vous voyez qu'on ne voyait pas à 15 mètres dans ces villes, ils sont complètement bloqués par... leur type de développement. Ils sont obligés d'aller sur le développement des énergies renouvelables. Alors après, c'est est-ce qu'il va y avoir une solidarité au niveau de l'ensemble des pays qui représentent la planète, puisqu'il y a 195 parties plus l'Europe, ça fait 196, pour qu'il y ait une vraie dimension sur l'urgence climatique. Et ça, il faudra que les pays européens donnent sur le financement, parce que les pays africains, eux, ils veulent un transfert de technologie, ils veulent un développement, puisqu'à l'heure actuelle, vous voyez qu'il y a plus de 75% des personnes qui n'ont même pas accès à l'électricité, donc ils veulent un développement, mais il ne faudra pas qu'ils passent par nos phases à nous, qui ont été de polluer la planète.
Est-ce que au niveau de l'Europe, il y a eu des engagements sur l'aspect financier, parce qu'on a entendu certains États annoncer des investissements et des participations. Est-ce qu'il y a un budget alloué à ça au niveau de
l'Europe ? Alors, tout le problème, c'est les fonds verts. Alors l'Europe va y contribuer, mais il faut que d'autres États contribuent, parce que l'Europe toute seule, elle ne pourra pas financer 100 milliards en 2020 par an. Il faudra la contribution certainement aussi des entreprises privées, mais pour l'instant, on voit que au niveau de l'aide au développement, il y a énormément de pays qui devaient donner 0,7% de leur PIB et qui en sont loin, comme la France par exemple. Hein. Il faut savoir, est-ce que c'est du blabla et les pays du Sud n'accepteront pas de signer le moindre accord ? Donc ça veut dire qu'il faut une mobilisation très forte, à la fois sur le plan européen, mais aussi au niveau des États-Unis, mais aussi du Canada, de l'Australie, parce qu'on a des tas de pays, si vous voulez, qui... Encore le Canada, il y a eu un changement de gouvernement où
M. Trudeau,
il est beaucoup plus sensible au climat, mais l'Australie, elle est plutôt climato-sceptique. Hein. Pourquoi ? Parce qu'elle a énormément de mines de charbon, elle a des mines d'uranium, et qu'elle ne veut pas entendre parler d'une diminution de gaz à effet de serre. Donc c'est un bras de fer. Donc c'est pour ça que l'intervention de Nicolas Hulot, qui est de dire c'est la COP de la dernière chance, il faut absolument que on aille sur une diminution de gaz à effet de serre si on veut défendre l'humanité, et que on a tous les chefs d'État et de gouvernement seront responsables. Et il faut aussi la société civile qui pousse justement les chefs d'État et de gouvernement à suivre cette trajectoire. Vous voyez, là il y a un engagement presque de tous les citoyens du monde à pousser leur gouvernement à aller dans cette trajectoire de diminution de la température de la Terre. Hein. C'est, pour moi, si vous voulez, c'est presque un traité de paix qu'on est en train de signer. Parce que si on réagit pas aujourd'hui, je vois pas comment on va arrêter les guerres qui sont très souvent liées à l'appropriation soit de ressources fossiles comme le pétrole, on l'a vu en Irak, on le voit en Libye, même au niveau de la Syrie, et par rapport aussi à des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, il faut qu'il y ait une co-responsabilité. Et j'ai l'impression qu'on est toujours un peu dans les égoïsmes nationaux et pas du tout dans une dimension qui dépasse ces égoïsmes. Donc c'est tout l'enjeu de cette COP. Hein.
Vous parlez de la société civile. Qu'est-ce que vous pensez du climat en France avec ce fameux état d'urgence et les dérives qu'on commence à percevoir ?
Écoutez, moi, j'étais pas pour voter cet état d'urgence comme ça, sans passer par le Parlement. Le Parlement avait la possibilité de la reconduire, vous voyez, tous les 12 jours, il pouvait très bien le faire. Et puis après, on s'aperçoit que l'état d'urgence va toucher aussi des activistes sur le climat. Donc vous voyez que le dérapage, il peut se faire très très rapidement. Et là, pour moi, l'urgence, c'est une urgence climatique. Mais on a vu que les dernières élections, les gens, ils sont plutôt sur un aspect sécuritaire plutôt que sur l'aspect lien entre ce qui se négocie sur le climat et ce qui pourra avoir des conséquences sur la paix dans le monde.
En effet. Une question ?
Oui, Georges Griot, sortir du nucléaire. Bonjour, j'aurais une question. J'aimerais savoir quels sont les moyens de coercition vis-à-vis des États qui sont réfractaires dans la COP21.
Alors, au niveau de l'Europe, moi je peux vous parler qu'au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Europe, si vous voulez, le mix énergétique, c'est la souveraineté des États. Par contre, les engagements tels qu'ils avaient été actés sur le plan climat 2008, ça c'était une responsabilité de l'Europe. Et les pays devaient aller dans ce sens-là. Sinon, les sanctions, ben, c'était des sanctions un peu financières. Parce que comme l'Europe redistribue les aides structurelles au niveau des États, eh bien, il pouvait y avoir une espèce de sanction en disant, ben, si vous ne suivez pas ces objectifs, on pourra diminuer les contributions de l'Europe vis-à-vis de votre pays. Mais on voit après que c'est des rapports de force. Quand je vois en Angleterre qui veulent développer le nucléaire ou en France avec la proposition d'EDF de remplacer les vieux réacteurs par de nouveaux EPR, là, c'est complètement en contradiction. Parce que autant on dit que le nucléaire émet peu de gaz à effet de serre, mais le problème, c'est que ça nourrit pas l'indépendance de la France, puisqu'on est tributaire de l'uranium qui peut venir du Kazakhstan ou qui peut venir du Niger ou de l'Australie, et qu'en plus, ça entraîne des pollutions au niveau des mines, ça entraîne des problèmes sanitaires, et qu'on ne peut pas se permettre un accident nucléaire en Europe, qu'on soit en France, qu'on soit en Angleterre ou en Hongrie.
Je vais vous couper un petit peu, on réabordera ce sujet juste après, on va faire une petite pause musicale. À tout de suite.
D'accord.
Merci.
Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre. L'aine du vieux ferré, les cris, la tempête. Boris Vian, ça s'écrit à la trompette. Rive gauche à Paris. Adieu. Les marchands mal appris qui ailleurs ont déjà tout pris viennent vendre leurs habits en librairie. En librairie. Si tendre soit la nuit, elle passe au Mazelda, c'est fini. Miles Davis qui sonne, Sagreco, tous les Morrison, leur Nico. Rive gauche à Paris, oh mon île, oh mon pays, de musique et de poésie, d'art et de liberté éprise, elle s'est fait prendre, elle est prise. Elle va mourir quoi qu'on en dise. Et ma chanson la mélancolise.
Vous écoutez toujours Atomic Mac sur Radio Méga et je le répète, en rediffusion sur Radio Diwa et Radio Déclic du côté de Tournon. Voilà, nous sommes toujours avec Michel Rivasi en direct de Bruxelles depuis son bureau. Et on parle de la COP21. Il y a un sujet qu'on voulait aborder avec vous puisqu'il y a un article qui est paru il y a très peu de temps dans Télérama où en fait les députés écologistes se mobilisent pour parler de la question des lobbies au niveau européen. Et du coup, ma question sur la question du réchauffement climatique, j'imagine que là aussi, vous les voyez à l'œuvre.
Bah écoutez, ils sont très présents au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau de la Commission européenne ou que ce soit au niveau du Parlement. Le tout, c'est qu'au moins, ils signent un registre. On sait qu'ils sont déjà étiquetés lobby. Alors que quand on va à l'Assemblée nationale, c'est pas forcément le cas. Ils peuvent très bien se cacher derrière, vous voyez, des masques. Mais moi, ce qui m'a surpris au niveau de la COP21, c'est quand même l'importance de ces industries, dont certaines ont reçu le prix Pinocchio par une alliance d'associations, que ce soit les Amis de la Terre, que ce soit Corporate Europe Observatory, que ce soit Peuple Solidaire Action Aid France, pour dire que comment fait-il que ces gens-là financent une partie de la COP, alors que si on prend BNP Paribas, par exemple, c'est l'un des sponsors de la COP21, et puis, en fait, ils sont épinglés parce qu'ils ont soutenu le secteur du charbon partout dans le monde, et notamment d'énormes centrales en Afrique du Sud et en Inde. On pourrait prendre le cas d'EDF, parce qu'en dehors du fait que, bien sûr, ils soutiennent le nucléaire, ils détiennent 16 centrales à charbon dans le monde. Et puis, il y a aussi tous les pétroliers, que ce soit Chevron, par exemple, qui font du lobbying incroyable sur les gaz de schiste en Argentine et ailleurs. Donc voilà, ça me surprend. Après, on a aussi toutes les fondations. La fondation Bill Gates, par exemple, qui fait, je l'ai vu à côté de Barack Obama en disant on va sauver le monde, on va investir dans les énergies renouvelables. Très bien, mais on sait pertinemment que sa fondation, il se sert de sa fondation pour pas payer, pour payer moins d'impôts. Et en plus, moi je les vois au niveau de la santé. Ils encouragent énormément la vaccination, mais en même temps, ils ont des actions dans les laboratoires pharmaceutiques. Au niveau du Kenya, ils investissent beaucoup dans les semences avec des OGM. Voilà, moi, moi, j'aurais aimé une conditionnalité des grosses entreprises pour dire, c'est bien que les entreprises, justement, soient sensibilisées sur la diminution de gaz à effet de serre, mais il faut qu'il y ait une cohérence au niveau de ce qu'ils font dans le monde, parce qu'ils peuvent être très performants au niveau de l'Europe et pas du tout, vous voyez, au niveau des autres pays où ils développent soit des centrales au charbon, soit comme Shell, par exemple, qui a pollué énormément au Nigeria, ce qui fait que les gens ne peuvent même plus pêcher dans le sud du Nigeria. Voilà, c'est cette incohérence où c'est du greenwashing. Quoi,
oui, bien sûr. Mmh. Cette dichotomie, on la retrouve également dans les discours politiques, notamment en France, très précisément, où entre effectivement les discours qu'on a pu entendre en introduction de la COP21 et tout au long, et puis pas mal d'actions du gouvernement français, effectivement, on a le même souci.
Alors oui, non, mais c'est vrai que j'ai vu Laurent Fabius qui se félicitait du soutien des grosses entreprises, dont des françaises, et puis en même temps, heureusement qu'il y a des groupes de citoyens et des associations qui disent « mais attendez, la cohérence de GDF Suez, alors c'est vrai que maintenant ils ont dit qu'ils investissaient plus dans le charbon, mais ils ont fait quand même des choix qui n'étaient pas les bons pour sauver la planète. EDF, moi ça me surprend chaque fois parce que on sait pertinemment que, bon, je vous ai dit, ils soutenaient des centrales à charbon, mais regardez seulement en Corse, ils ont construit une centrale au fioul lourd alors qu'ils avaient la possibilité de construire des centrales aux énergies renouvelables ou même une centrale au gaz, ils n'y sont toujours pas passés. Donc c'est des rapports de force, c'est pour ça que c'est très important une COP, en fait elle peut réussir, il faut les États bien sûr, mais il faut la pression de la société civile. Et lorsqu'on a interdit, si vous voulez, les manifestations de la société civile, alors qu'on autorise des manifestations sportives ou on autorise le commerce, je me dis qu'il y a quand même deux poids deux mesures.
Tout à fait. Et donc on a parlé effectivement de la présence dans cette COP21 du lobby nucléaire. Alors quel est votre avis sur l'argument d'EDF qui dit que en gros évidemment le nucléaire est une solution à la lutte contre le réchauffement climatique?
Mais vous savez moi ma position, le nucléaire n'a jamais été une énergie propre. Quand on s'intéresse, moi ça fait plus de 30 ans que je m'intéresse au nucléaire déjà sur leur manque de transparence, ça c'était l'accident de Tchernobyl. Mais c'est quand même l'énergie qui, en fonction du temps, devient de plus en plus chère. Pourquoi ? Parce que, un, on a eu Tchernobyl et Fukushima, donc il faut revoir ce qu'on appelle la sécurité des centrales. Et quand on voit ce qu'on appelle le carénage des centrales, ça coûte des milliards d'euros. dans la mesure où il faut renforcer, si vous voulez, le, à la fois les réacteurs, mais il faut renforcer les digues, parce qu'on peut être, toujours être soumis à un séisme et à une inondation, ça c'était dans le cas de Fukushima. Après, il y a toute la gestion des déchets radioactifs. Vous avez vu qu'à Bure, les gens n'acceptent pas le stockage à 600 mètres de profondeur des déchets radioactifs, et il y a eu plusieurs pépins dans le monde qui ont montré qu'il pouvait y avoir fabrication de bulles d'hydrogène et explosion sur la partie souterraine.
Il n'y a toujours pas vraiment de solution.
Un accident, c'est ingérable. Tout à fait. Il faut que les gens aillent. Moi, je vais souvent à Tchernobyl parce qu'on a rénové un hôpital pour suivre des enfants qui vivent encore en zone contaminée. Vous voyez, ça fait plus de 30 ans. Et on ne sait toujours pas gérer un accident nucléaire. Et Fukushima, c'est la même chose. Donc, pour moi, c'est exclu, le nucléaire. Il faut qu'on en sorte de ce nucléaire. Et en plus, on a une opportunité, c'est toute la partie innovation qui touche aux énergies renouvelables. En plus, il y a toute une partie sur le solaire, avec tout ce qu'on est capable de faire à l'heure actuelle, sur des panneaux photovoltaïques, mais aussi, regardez les innovations de l'entreprise Colas, qui est une entreprise qui fait des routes et des autoroutes, qui sont capables maintenant de fabriquer des autoroutes avec des panneaux souples photovoltaïques qui pourront être de vraies centrales énergétiques. Ça, c'est une possibilité énorme. On peut le développer sur toute nouvelle construction. Je trouve que, bon, là, c'est vraiment un secteur sur lequel on peut, à la fois, on peut le faire dès aujourd'hui et encore, vous voyez, il y a des marges d'innovation incroyables. Il y a toute la partie éolien, éolien terrestre, mais éolien sous-marin, ce qu'on appelle les hydroliennes. Il y a la partie géothermique, on peut développer. Il y a la partie biomasse. Donc, il y a, vous voyez, un panel. Mais alors, ça, ça plaît pas, si vous voulez, à notre système jacobin français, parce que ça demande une décentralisation. Vous voyez, ça demande de jouer sur les atouts de chaque région. Et ben ça, c'est pas encore passé dans les mœurs. Et en même temps, ça permettrait d'avoir une indépendance, une véritable indépendance, énergétique. Et là, dans le nucléaire, on n'a pas d'indépendance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, la solution, c'est vraiment les énergies renouvelables. Nous, les écologistes, ça fait des années qu'on se bagarre là-dessus. Maintenant, il y a une palette de possibles qui est énorme. En plus, je trouve que c'est valorisant aussi pour notre jeunesse de se dire, ben voilà, il faut investir dans ces secteurs-là, il y a tout à inventer, et en plus, bon, c'est quand même, quand je vois les territoires à énergie positive, de se dire qu'on peut plus produire d'énergie que ce qu'on peut en consommer, mais vous voyez, ça passe aussi par un concept de sobriété, parce qu'on ne peut pas être toujours dans la surconsommation, dans, vous voyez, le fait de
Conclure
de se déplacer avec des voitures qui consomment énormément.
On va conclure sur ce que vous disiez, en disant qu'effectivement, c'est une chance à saisir, et effectivement, je pense que ça pourra être le mot de la fin. Voilà, je suis désolée, on est obligé de continuer la suite de l'émission. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé, et puis on aura certainement l'occasion de vous recontacter
d'autres émissions. Pour moi, c'est vraiment un espoir d'aller dans l'écologie, et voyez, avec une écologie solidaire, une écologie sociale, et pour justement la survie de l'humanité. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
Et
merci
à bientôt.
À vous.
Au revoir.
Au revoir.
On enchaîne avec le billet de Jeanne, l'intox des intox du mois.
Donc moi, je vais vous parler du futur nucléaire de la France. Vendredi 23 octobre, à l'occasion d'un déjeuner avec des journalistes, le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, a présenté le plan EDF à l'horizon 2030. Autant dire la politique énergétique de la France, tant les deux se confondent.
Alors, Jeanne, EDF va-t-elle se tourner vers les énergies renouvelables ?
Et non, EDF n'est pas prêt à sortir du nucléaire et compte bien maintenir la puissance de son parc nucléaire, tout en respectant l'objectif de la loi sur la transition énergétique de ramener de 75 à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité.
Et comment cela est-il donc possible ?
En prenant comme prévision de consommation d'électricité les plus hautes tricotées par EDF, qui devrait normalement se référer aux prévisions faites par le réseau de transport de l'électricité, puisque c'est ce réseau qui est en charge des différents scénarios de prévision.
Pourquoi EDF ne se réfère pas aux prévisions du réseau de transport de l'électricité ?
Sans doute parce que le scénario le plus haut est d'un tiers moins élevé que celui d'EDF. EDF mise sur le développement des véhicules électriques, de nouveaux appareils. etc.
Mais si on ne diminue pas la puissance installée, comme le PR piétine, ça signifie qu'on prolonge nos centrales jusqu'à quand ?
Les centrales étaient prévues pour durer 30 ans. Elles ont été construites pour la plupart dans les années 70 et 80. Les deux tiers de nos centrales ont déjà atteint les 30 ans de fonctionnement. On remarque d'ailleurs au passage que ni l'État ni EDF n'avaient anticipé le remplacement du parc nucléaire. Elles sont prolongées, les unes après les autres, jusqu'à 40 ans et la facture est déjà salée. Mais qu'importe, M. Lévy ne doute pas de la réponse favorable de l'ASN pour un prolongement jusqu'à la période 2030 à 2050, soit 70 à 70 ans d'activité. On imagine le coût d'un tel prolongement et l'interrogation légitime concernant la sécurité, quand on sait qu'on ne peut pas tout changer sur une centrale et que notre monde se durcit.
Et alors que prévoit EDF et ce monsieur Lévy pour remplacer nos vieilles centrales ?
Ben le PR, toujours et encore. Peu importe que celui de Flamanville et celui de Finlande soient des fiascos industriels et financiers, monsieur Lévy assure que le projet britannique crédibilise la technologie EPR, oubliant de préciser que c'est EDF Énergie qui est à l'origine de la commande. EDF, partout et toujours, même en Angleterre. Donc une fois nos centrales bien usées, en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas d'accident ou d'attentat, on les remplacera de 2030 à 2050 par paquet de deux, par les EPR nouveaux modèles, qui sont censés être moins coûteux et plus faciles à construire que l'EPR actuel. Heureusement. D'ailleurs, 200 ingénieurs d'Areva et d'EDF travaillent en commun sur ce sujet depuis plus d'une année. Que d'efforts de recherche pour le nucléaire, dommage qu'il n'y en ait pas autant pour le renouvelable.
Et puisque EDF prévoit la mise en chantier de l'EPR d'ici dès 2030, alors que sur le papier le modèle n'existe pas encore, j'imagine qu'ils ont dû prévoir les financements.
Il faudra faire intervenir des partenaires, nous dit M. Lévy. Ce sera l'État actionnaire qui choisira. Le choix se portera peut-être sur les investisseurs chinois, comme en Grande-Bretagne. Il faudra des partenaires friqués, 35 réacteurs à 10 milliards, 350 milliards d'euros, soit le montant des avoirs français dans les paradis fiscaux.
Magnifique. Merci Jeanne. On termine avec l'agenda de ce mois de décembre, à toi Annie.
Oui, alors l'agenda de ce mois est un petit peu bouleversé parce que dès mardi 8 décembre à 14h, nous vous invitons à venir nous rejoindre au commissariat de Valence où notre collègue Dominique est convoqué suite à notre mini-manif du 28 novembre. Ensuite, samedi 12 décembre, nous vous invitons à venir devant la mairie de Valence à 14h. On sera dans le cadre de la fin de la COP21 et nous voulons avoir le dernier mot. Lundi 21 décembre à 18h30, c'est la réunion mensuelle qui aura lieu à la Maison des Sociétés. Et dès 2016, le programme continue puisque le samedi 9 janvier, nous proposons une réunion pour établir le cahier des charges de notre site web. Alors, avis à tous ceux qui ont des compétences en la matière. Et 2016 oblige aussi, déjà en février, la date du congrès du réseau Sortir du nucléaire, le 12, 13, 14 février à Angers. Voilà pour ce qui nous attend prochainement.
Merci beaucoup Annie. Allez, on fait vite. Donc, je vous rappelle, répondeur de l'émission 0805 69 67 58. L'appel est gratuit. Aujourd'hui, l'émission a été préparée et est faite par Pierre à la technique, Jeanne, Annie, Georges et moi-même, Céline. Et on vous donne rendez-vous en janvier le 4 pour la prochaine émission. D'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt.
يلتنا لتبح لطير الحمام روح يا حمام لتصدق بضحك عنا دلتنا يلتنا لتبح لطير الحمام روح يا حمام لتصدق بضحك عنا دلتنا تيشتشي وحتيشتشي والخوخ تحت المشمشي